agriculture biologique. Environnement, zéro déchet, développement durable. Vous souhaitez communiquer et partager vos actions, parler de vos projets sur l'antenne de Radio Alpes Mancelles 106.3 FM.
Juste pour que ça dure.
Mon Bio Écomag vous informe sur différentes initiatives et expériences en faveur de l'environnement et du développement durable sur notre territoire.
Juste pour que ça dure.
Contactez le 02 43 33 24 56, le 02 43 33 15 15.
Juste pour que ça dure.
Écoutez Radio Alpes Mancelles sur le 106.3 FM, votre radio associative en territoire Haute-Sarthe Alpes Mancelles. Consultez son site internet et rejoignez-nous sur la page Facebook de Radio Alpes Mancelles.
À présent, nous recevons sur l'antenne de Radio Alpes Mancelles 106.3 FM Adélaïde UGD, gérante de la joaillerie Houillon du Mans, qui vient nous parler de son métier, certes, mais également des valeurs écologiques et économiques qu'elle y défend. Madame UGD, bonjour.
Bonjour.
Gérante de la joaillerie Houillon, je vous laisse nous parler de votre parcours et de votre métier.
Alors oui, je gère la joaillerie Houillon depuis 2016. J'y ai fait mon apprentissage à côté de monsieur et madame Houillon et j'ai eu l'opportunité de reprendre par la suite l'entreprise. Et puis voilà, depuis 7 ans maintenant, je reçois les personnes pour toute demande, que ça soit les réparations, transformations, créations sur mesure, que l'on peut réaliser à partir aussi de leurs propres matières qu'ils peuvent apporter, que l'on retransforme, que l'on modifie et que l'on réagence, ou à partir de matières que l'on peut fournir.
Un beau métier qui nécessite beaucoup de savoir-faire. Pour pouvoir en arriver là, y a-t-il un parcours d'études spécifique ?
Alors oui, les études sont assez spécifiques dans le sens où ce sont des formations qui vont apporter à chaque fois des compétences, puisqu'il faut avoir multiples compétences dans notre métier, eh bien il faut accumuler ces formations pour pouvoir être formé et être un professionnel qui maîtrise le plus de compétences et de savoir-faire possible. Donc que ça soit les métiers de base, ça va être bijouterie, joaillerie, donc la bijouterie spécifiquement, c'est le travail de la matière première pour mettre en forme le bijou, mais on va être sur plutôt du travail de métal plutôt qu'un travail avec des pierres précieuses. Justement, le travail de joaillerie, lui, c'est le travail de la mise en valeur, mise en lumière des pierres. Donc ici, on va toujours travailler le métal, mais très finement pour le faire oublier et mettre en valeur les pierres. Et puis après, il y a le travail du sertisseur qui, lui, va fixer les pierres sur le bijou. Donc ça, c'est encore une autre compétence, un autre métier. Après, vous avez aussi tout ce qui va être création, donc faire des croquis, des dessins. Et ça s'apprend dans une autre formation également, un brevet des métiers d'art notamment. Et puis après, ben il y a la connaissance des gemmes, hein, qui est quand même une part importante de notre métier, parce qu'il faut aussi savoir ce que l'on travaille comme matière, savoir identifier les matières des personnes quand ils nous les apportent. Donc la formation de gémologie est une formation importante pour nous qui nous permet d'avoir ces compétences-là et de savoir parfaitement de quoi on l'on parle, que ce soit sur les matières que l'on vend ou sur les matières que l'on reçoit des clients. Donc moi, pour donner à peu près un ordre d'idée, j'ai fait 9 ans d'études après mon bac pour acquérir toutes ces compétences.
Des connaissances, on va dire, purement théoriques que vous avez approfondies de manière pratique, notamment au sein de la joaillerie Houillon en tant que en formation?
Tout à fait. En fait, j'ai fait ma formation en apprentissage, donc à l'école, bien évidemment, sur les parties qui sont acquisition de savoir-faire. Donc, toutes les formations de bijouterie, joaillerie, sertissage, brevet des métiers d'art, il y a une grande partie de pratique malgré tout. Il y a de la théorie un petit peu, mais une grande partie de pratique, étant donné qu'on est sur des formations qui sont faites et dispensées après un bac. Donc, on a une grande partie des matières générales qui ne sont plus transmises, puisqu'on a déjà un bac, et puis on reste sur les matières vraiment professionnelles. Et après, en complément de ça, on a vraiment l'acquisition au sein de l'entreprise, puisque c'est à peu près un rythme de 2 semaines en entreprise, 1 semaine à l'école. Donc le rythme en entreprise permet d'avoir du temps pour réemployer les savoir-faire appris à l'école en entreprise et comme ça développer tous ces savoir-faire au profit d'une entreprise avec ses contraintes d'entreprise. Et pour, on va dire, des clients et des demandes concrètes. Donc, c'est l'intérêt de l'alternance, c'est de pouvoir mettre en pratique sur des demandes concrètes.
Au sein de votre joaillerie, vous avez à cœur la réparation ainsi que la transformation de bijoux. En ce sens, vous fabriquez une grande partie de vos bijoux à partir notamment des matières apportées par vos clients. Je vous laisse peut-être nous apporter d'amples détails sur ces points.
Oui, alors on réalise effectivement tout ce qui peut être réparation. Donc ça peut aller d'une réparation assez simple, c'est-à-dire un bijou qui est devenu trop petit ou un bijou qui est transmis et qui ne correspond pas à la taille de la personne qui le reçoit. Eh bien, il va être travaillé pour s'adapter à la taille de la personne. Après, un bijou qui peut être cassé, bien évidemment, il peut être réparé pour pouvoir aussi continuer sa vie avec la personne. Donc ça, c'est des choses qui sont assez courantes. Après, il y a un degré de réparation supérieur, ça va être plus de la restauration, donc un bijou qui a subi les aléas du temps. Eh bien, on va être en mesure de remettre de la matière là où il en manque, de revoir, en fait, souvent c'est au niveau du maintien des pierres, hein, que l'usure peut jouer, qui va faire que la pierre va pouvoir bouger, qu'elle ne va pas être bien scellée, qu'elle peut être perdue, tombée. Donc, tout ça, ça va être des choses qui vont être revues. Et puis après, il y a aussi de l'usure avec les frottements. Quand on porte des bijoux, notamment souvent 2 bijoux l'un contre l'autre, et ben au fil des années, ça peut s'user. Donc il va y avoir des restaurations plus ou moins complexes. Parfois, on a vraiment un travail qui est assez complexe parce qu'il va falloir expertiser la pièce, savoir par quelle technique elle a été fabriquée, savoir quelles opérations de restauration il y a pu avoir au préalable, et puis en analysant tout cela, savoir comment nous on va pouvoir opérer sur le bijou, parce que une réparation ou une restauration doit être solide, c'est-à-dire que notre but c'est que la durée de vie du bijou puisse perdurer encore des dizaines d'années, donc il faut que ça soit solide. Mais il faut aussi que ça soit invisible, c'est-à-dire qu'il faut garder l'âme et l'esprit du bijou, les techniques et les savoir-faire qui ont été employés doivent être à l'identique. Donc là, il y a un vrai travail d'expertise sur le bijou. Et puis après, il y a la transformation à partir de matières que nous apportent les gens. C'est-à-dire que parfois, il peut y avoir des personnes qui... Eh bien, on reçoit un bijou auquel ils tiennent énormément parce que ça a une grande valeur sentimentale, mais ils ont un problème pour le porter parce que ça correspond pas à leur goût. Et c'est un bijou qu'ils souhaitent garder, qui reste dans un tiroir, mais c'est un petit peu dommage aussi de garder un bijou dans un tiroir. Donc ils viennent nous voir pour qu'on puisse essayer de trouver des solutions. Et donc, en fonction de la demande, en fonction du profil aussi de la personne que l'on a en face, par exemple, quelqu'un qui a reçu une bague mais qui ne porte jamais de bague parce que au quotidien, c'est pas pratique par rapport à son métier, par rapport à comment elle peut vivre au quotidien, on va pouvoir aussi penser à transformer le bijou en collier, par exemple. Ou alors un bijou qui peut être un peu désuet, on peut aussi garder certaines parties du bijou qui peuvent plaire, qui peuvent garder ce côté de souvenir, de sentimental, et puis moderniser le reste, c'est-à-dire de faire un compromis, ça va être une transformation partielle, c'est-à-dire qu'on garde un élément pour le réintégrer sur quelque chose peut-être de plus moderne. Et puis, il y a des transformations qui vont être totales, c'est-à-dire que le bijou ne plaît vraiment pas, mais l'or qui a un petit peu vécu à travers les générations d'avant, qui garde cette valeur sentimentale, les pierres qu'il y a dessus, eh bien ça, ça a vraiment de l'importance pour la personne. Par contre, le bijou ne plaît pas du tout. Donc, on dessertit les pierres d'un côté, on garde l'or de l'autre côté. Et puis souvent, il faut plusieurs bijoux pour refaire une transformation. Donc, on peut associer avec d'autres bijoux. Donc, on refond l'or et puis on réutilise les pierres. Alors, on n'est pas obligé de réutiliser non plus toutes les pierres. Hein. Ça va dépendre de l'envie et puis du style de bijoux que souhaite la personne dans sa transformation. Mais on refait en fait un bijou neuf à partir des matières premières qui ont été apportées. Et qui peut être complètement différente du premier bijou, mais on respecte quand même les matières, le côté sentimental de cet apport, ce côté souvenir, ce côté transmission.
Tout ce travail est fait, si je comprends bien, sous expertise, votre expertise personnelle, mais également les demandes et attentes du client.
C'est ça, on respecte vraiment, en fait, le point de départ, ça va être le dialogue, l'échange avec la personne qui vient nous rencontrer. Rien ne se fait sans cet échange de base. On consacre à peu près 2 heures de rendez-vous pour ce genre de projet parce qu'il faut prendre le temps de bien comprendre, de bien analyser ce que souhaite la personne. Des fois, c'est clair parce que les gens, ils savent vraiment ce qu'ils veulent. Et des fois, c'est flou, en fait. Les gens ne savent pas trop. Ils ont envie d'eux, mais ils ne savent pas comment. Ils ne savent pas où est-ce que ça va les mener. En fait, c'est assez flou. Et c'est à nous de savoir mener l'échange pour discerner ce qui est important, ce qui peut être fait, ne pas être fait, et de comprendre aussi comment vit la personne pour que ce bijou soit agréable à porter et fasse partie d'elle-même par la suite. C'est-à-dire qu'on va pas faire un bijou pour faire un bijou. Il faut que le bijou il puisse être porté, qu'il puisse plaire à 100%, qu'il puisse intégrer complètement la vie de la personne, refléter sa personnalité. Donc voilà, c'est vraiment des fois des petites ficelles à tirer pour pouvoir bien comprendre où est-ce que on va aller pour obtenir le résultat optimal qui va faire un effet waouh.
Donc un savoir-faire que vous avez acquis au sein de cette joaillerie notamment et que aujourd'hui vous transmettez également à vos salariés. Actuellement, vous êtes combien à travailler ?
On est 5 à l'atelier. Alors j'ai 2 apprentis parmi les 5 personnes et on continue à transmettre notre savoir-faire par le biais de ces 2 apprentis-là également.
Dans le rose à l'horizon, qui sera l'orage dans la prose du vent, quand s'épanchent les présages, qui lira la tradition, et quand j'aurai 3 fois mon âge, qui s'en balancera pour de bon. Vieillard à mine d'or. À quand les vieux qui poussent dans les jardins d'enfants et qui tracent la grande ours devant des yeux grands de vieillard à mine d'or, vieillir sans être vieux. On court après le temps, mais on veut pas voir son sillage. Pas dans l'écran et pas dans les visages. Pendant que la jeunesse cherche un sens à l'histoire. L'histoire, elle se perce toute seule dans les couloirs. Je sais que c'est pas vrai, l'âge n'a pas d'or. Et si on devenait joyeux d'années-lumière, de vieillard à mine d'or, de vieillard à mine d'or. Quand les vieux qui poussent dans les jardins d'enfants. Vieillir sans être vieux.
au sein de votre joaillerie. Vous souhaitez également privilégier le travail artisanal avec souvent des techniques ancestrales. Pouvez-vous nous détailler quelques-unes de ces techniques ?
Alors oui, pour nous c'est important de garder le savoir-faire traditionnel. Moi c'est comme ça que j'ai appris mon métier. C'était vraiment très important pour Monsieur Houillon, ce côté savoir-faire traditionnel. Et je suis très fée à cette transmission. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a des moyens qui permettent de fabriquer des bijoux plus rapidement, des moyens qui sont du coup plus rentables. Je pense notamment à la conception assistée par ordinateur où on va pouvoir faire le dessin du bijou sur l'ordinateur en trois dimensions. Et puis après, ce dessin va être imprimé quelque part sur une imprimante 3D pour obtenir une maquette en résine. Cette maquette sera moulée et puis après l'or sera coulé à l'intérieur. Il restera la reprise, donc c'est-à-dire du poncer un petit peu la matière pour enlever les aspérités, sertir les pierres, polir le bijou pour qu'il puisse être éclatant et le travail sera terminé. Pour ces conceptions, des fois, en 4 heures, on peut faire un fichier en 3D. Dans notre volonté de respecter le savoir-faire manuel, c'est une technique que l'on utilise, c'est la technique du forgé-main. Donc nous, on va aussi faire couler notre or dans une lingotière, mais après, on va travailler sur des machines qui vont nous permettre de tirer des fils d'or ou faire des plaques d'or. Donc c'est un petit peu comme les machines des boulangers qui vont travailler une pâte et puis après qui vont les passer la pâte dans des rouleaux pour en fait l'affiner. Bon ben voilà, nous c'est un peu ces mêmes machines-là, des rouleaux qui vont permettre d'écraser, d'affiner la matière pour pouvoir nous faire des plaques ou des fils. Et à partir de ces plaques ou de ces fils, on va pouvoir travailler et forger notre matière. Donc c'est-à-dire que chaque élément va être assemblé à partir de plaques qui vont être découpées, mises en forme, adaptées à la forme des pierres. Les griffes vont être apportées pour être soudées pour vraiment à partir de chaque pierre, chaque chaton est fait à la main. Alors le chaton, c'est ce qui va tenir la pierre. Donc tout va être fait à la main à partir de ce métal forgé pour correspondre exactement à la forme des pierres. Le corps de bague aussi va être forgé, donc on va le marteler, on va venir travailler en fait toute notre matière au fur et à mesure de nos étapes de fabrication, ce qui va nous permettre d'obtenir un métal qui va être plus dense, parce qu'en fait un métal quand il est coulé, il est entré en fusion, il est coulé et les atomes sont dilatés. Et le fait de travailler notre matière en l'étirant, en l'écrasant, en la martelant à chaque étape de fabrication, elle va resserrer ses atomes les uns contre les autres et va faire qu'on va obtenir un métal qui va être plus dense et aussi du coup plus solide. Ça nous permet aussi d'avoir un taux de finition qui est impeccable puisque chaque étape, chaque élément va être parfaitement poli avant d'être assemblé, ce qui va nous permettre d'avoir un polissage dans tous les petits recoins, ce qu'on a plus difficilement de mal à obtenir sur une technique d'un bijou fondu puisqu'il est fondu d'un bloc. Donc après, pour venir repolir dans les petits coins, c'est pas toujours facile. Et d'ailleurs, c'est souvent comme ça qu'on voit la différence entre un bijou qui va être fondu et un bijou qui va être forgé. Voilà. Et il y a aussi le temps qu'on va passer. C'est-à-dire que sur un bijou qui va être réalisé en conception assistée par ordinateur, ça va être un temps de travail plus court. Je disais à peu près 4 heures peut-être pour faire un fichier sur l'ordinateur. Bien sûr, en fonction de la complexité du bijou, ça peut être un peu plus rapide ou un peu plus long en fonction des modèles. Nous, en moyenne, notre temps de fabrication, c'est au moins une semaine pour fabriquer une bague, par exemple.
Vous êtes également membre du réseau des réparateurs. De quoi s'agit-il ?
Alors, les réparateurs, c'est un réseau qui permet de recenser les professionnels de la réparation qui est confondu. Ça va être des professionnels qui vont permettre de faire perdurer les objets de notre quotidien. Donc ça peut être les couturières qui vont permettre de prolonger des habits ou de les adapter aussi à la morphologie des personnes. Ça peut être un cordonnier, ça peut être un horloger, ça peut être quelqu'un qui va restaurer des meubles, ça peut être quelqu'un qui va réparer de l'électroménager, enfin tout ce qui peut toucher finalement nos objets que l'on utilise au quotidien. Alors certains plus sur des objets du quotidien récurrents, la couturière, le vêtement, on en porte tous les jours. C'est vrai que le cordonnier, c'est pareil, les chaussures, c'est des choses qu'on va porter tous les jours. Et puis il y a des objets un petit peu moins courants. Je pense aussi, on a une chapelière qui va être capable de restaurer des chapeaux anciens, de les remettre en forme, de les remettre à neuf. Donc c'est des métiers un peu plus spécifiques. On a des réparateurs de hautbois, des archetiers, ceux qui vont réparer les archets pour jouer du violon, du violoncelle. Donc il y a des métiers très spécifiques, il y a des métiers bien connus, des métiers très spécifiques, et on a tous le même but, la même vocation, c'est-à-dire de mettre notre savoir-faire et notre expertise au service de ces objets qu'on souhaite voir perdurer, pour éviter de les jeter et pour faire en sorte qu'ils puissent durer le plus longtemps possible en les entretenant, en faisant des réparations quand ils sont cassés, pour leur offrir une seconde vie, pour leur permettre de durer dans le temps. Alors ça va s'adresser vraiment sur le... Parce que comme son nom l'indique, réparateur, on pense tout de suite à réparation. Donc on fait tous de la réparation, mais certains réparateurs aussi ont l'opportunité de décontextualiser un objet, de pouvoir sortir un petit peu l'objet de son contexte pour le transformer, le mettre dans une autre dimension. Et de ce biais-là aussi, ça permet de faire perdurer l'objet, même si c'est dans un autre contexte. Alors, dans notre métier à nous, en tant que joaillier, on voit bien ces deux attraits-là, c'est-à-dire que la réparation d'un côté et la transformation de l'autre. C'est-à-dire que on répare d'un côté l'objet tel qu'il est, et puis d'un autre côté, on peut le transformer complètement, partir sur un nouveau bijou, mais quand même à partir des matières premières. Ce qui va éviter d'extraire de nouvelles matières, ce qui va éviter d'acheminer de nouvelles matières. Donc on est vraiment comme ça sur une économie circulaire, quelque chose qui va être écologique et moins impactant pour notre planète.
D'où le fait que vous avez souhaité, vous, intégrer ce réseau.
Tout à fait, parce qu'on a tous les mêmes valeurs, on a tous les mêmes envies, c'est-à-dire qu'on est tous avec un métier pointu entre les mains, avec un degré d'expertise qui est quand même assez poussé, parce que souvent, pour faire de la réparation, il faut aussi être un expert dans son métier, parce que c'est pas forcément ce qu'il y a toujours le plus facile, la réparation. Il faut maîtriser les techniques, comme on l'a dit tout à l'heure, les savoir-faire. Il faut pouvoir s'adapter à faire une réparation durable, mais à la fois invisible. Et ça, c'est valable pour tous les métiers de la réparation. Et puis, on a tous ces valeurs aussi d'écologie, c'est-à-dire qu'on essaye de mettre en œuvre dans nos métiers une façon de travailler le plus éco-responsable possible avec les substances que l'on utilise. Je sais qu'il y a des ébénistes qui utilisent des colles anciennes à partir de produits naturels. Voilà, c'est une réflexion globale. Et ça nous permet aussi de nous développer chacun au contact des autres réparateurs quand on peut échanger avec les uns, enfin quand on échange ensemble, ça nous permet aussi de dire ah oui, moi j'avais pas pensé à ça, mais peut-être que je pourrais m'améliorer en essayant d'adapter mon processus de fabrication ou de réparation avec une méthode qui peut être moins impactante sur la planète, moins impactante sur le côté écologique. Et c'est vrai que voilà, le réseau réparateur aujourd'hui prend de l'ampleur. De plus en plus de professionnels sont intéressés pour intégrer ces réseaux-là. C'est vraiment des artisans qui sont à l'écoute de la clientèle, qui a pour but de satisfaire son client. Et puis c'est quelque chose qui va dans le sens de ce que le gouvernement peut mettre en place, puisqu'aujourd'hui, sur notamment les appareils électroménagers, mais bon, ça va se développer sur d'autres produits du quotidien, mais sur les appareils électroménagers, vous avez aujourd'hui des indices de réparabilité quand vous achetez un appareil neuf, qui va vous indiquer si votre appareil va être facilement réparable ou pas. Et dans ces indices de réparabilité sont estimés la façon dont on va pouvoir accéder à l'objet, comment on va pouvoir l'ouvrir, si c'est facile ou pas, si c'est facilement réparable parce que on va facilement obtenir des pièces pour pouvoir remplacer celles qui sont usagées. Voilà, il y a tout un tas de critères qui permettent de mesurer le taux de réparabilité des objets. Et donc ça va s'étendre à d'autres objets du quotidien. Et bientôt, on va avoir aussi des indices de durabilité sur les objets. C'est-à-dire de savoir si c'est des achats qui peuvent être plutôt éphémères ou si c'est des achats qui vont perdurer dans le temps.
Et vous, concernant vous, avez-vous des projets pour la joaillerie en cette année 2023 ?
Des projets, eh bien, de toujours nous développer dans cette démarche d'écologie, dans le fait de faire quelque chose de sensé, qui a du sens en fait, que notre activité soit sensée, aussi bien qu'il y ait du sens pour nous, qui est mon travailler de nos mains en tant qu'artisan, ça a du sens pour nous de travailler à l'ancienne, de travailler avec nos savoir-faire, nos compétences, plutôt que de faire travailler la machine, de pouvoir toujours être à l'écoute de nos clients et à l'écoute de leur satisfaction pour toujours mieux les servir, et puis vraiment mettre en place cette démarche de plus en plus sur le côté réutilisation et recyclage des matières.
Avant de nous quitter, je vous invite à nous donner vos contacts pour nos auditeurs qui souhaiteraient d'amples informations concernant la joaillerie Houillon.
Vous pouvez nous retrouver à la joaillerie Houillon, qui se situe 15 rue Saint-Benoît au Mans. C'est dans le Vieux-Mans, à côté de l'église Saint-Benoît. Vous pouvez nous contacter au 02 43 28 39 32 et puis par mail atelier@joaillerie-du6houillon.fr, également via les réseaux sociaux Facebook et Instagram.
Madame UGD, je vous remercie d'avoir pris de votre temps pour cet échange et je vous souhaite une agréable journée.
Merci beaucoup, au revoir.
Au revoir.
C'est beau, mais quand même, ce ne sont que des cailloux. Des pierres qui vous roulent, roulent et qui vous coulent sur les joues. J'aime mieux que tu m'aimes sans dépenser des sous. Moi, je m'en moque, j'en vois valser. Quelque part ou ailleurs, entre les roses et les choux.